La question qu'on est tous en droit de se poser en regardant la saison 3 de House of Dragon est: vont-ils foncer dans le même mur que celui du final de Game of Thrones? Le suspense est à son comble. Salut à tous, c'est Vin sur Plottime et on se retrouve une nouvelle fois sur la saison 3 de la série Game of Thrones House of the Dragon, une analyse mi-saison, et je vous renvoie sur une playlist dédiée et surtout à ma vidéo précédente sans spoil consacrée au premier épisode. Et je suis navré pour les gens qui m'attendaient sur cette série. J'ai malheureusement été débordé sur d'autres projets et j'étais obligé de faire des choix difficiles. Vous proposer une vidéo sur la première moitié de la saison 3 m'a semblé être la meilleure solution. Bien que ça ne garantit pas pour autant que je reprenne mon format hebdomadaire par la suite. Si ce n'est que je peux, en revanche, vous garantir une grosse vidéo synthèse en fin de saison. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, les premiers retours d'audience sont plutôt stables pour cette série. Il n'y a donc, j'imagine, pas vraiment de raison qu'ils baissent le budget pour la saison finale, qui sera, je le rappelle, la saison 4. Et même si la troisième se défend sur de nombreux aspects, elle commence de plus en plus à dévoiler les raisons pour lesquelles l'auteur d'origine a décidé de quitter le projet. Et ça, croyez-moi, nous aurons tout le temps développé. Ce dernier parlait d'une sorte d'effet papillon qui, en ne respectant pas son œuvre dès la saison 2, pouvait créer une réaction en chaîne d'événements qui allait pousser les scénaristes à prendre des décisions de plus en plus incohérentes pour arriver au bout de l'histoire. Et c'est malheureusement ce à quoi nous assistons dans cette saison 3. Mais elle reste globalement un bon spectacle. Voilà, j'étais un peu surpris des critiques négatives du premier épisode. J'ai vu beaucoup de gens déçus des scènes d'action en comparant injustement à l'épisode à des gros films à gros budget. Je trouve ça vraiment injuste parce que cet épisode-là met une claque à n'importe quelle autre série d'action. Concrètement, nier le travail fourni dans la bataille du gosier me paraît contre-productif, alors qu'on devrait plutôt se concentrer sur le fond, et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo qui s'annonce riche en spoilers, bien que je prévoie de ranger l'épisode 5 à part pour ceux qui n'auraient pas encore vu. Mais avant de lancer les hostilités, je tenais à remercier chaleureusement les gens qui me soutiennent sur Patreon, où vous pouvez d'ailleurs rattraper mon dernier podcast consacré au film sur Samuel Paty, L'Abandon, au cas où si vous l'avez manqué, en attendant le prochain contenu exclusif qui débarque d'ici la fin du mois. Sur ce, voyons à quel niveau cette guerre est sanguinaire. Ce début de saison 3 est marqué par la mort tragique de Jaqerys au gosier, ainsi que la chute de Corlys Velaryon. En réponse, Rhaenyra et Daemon s'emparent de Port-Réal, avec par surprise la complicité d'Alicent menant à l'exécution d'Otto Hightower. Alors qu'Aegon et Larys fuient dans la misère et Caemon se réfugie à Arrynhal, Ormund Hightower poursuit son offensive à Chutebourg et cache la présence de Daeron Targaryen à ses côtés en utilisant un imposteur pour se faire passer pour lui. Et tandis que Rhaenyra peine à gouverner une capitale ruinée, Rhaena de son côté parvient à revendiquer le dragon sauvage, voleur de moutons. Du côté des Noirs en tête d'affiche, nous avons Rhaenyra, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que la pression retombe après l'épisode 1, c'est tout l'inverse. On assiste aux funérailles de Jacques avec Emma Darcy, il faut le dire, qui crève l'écran. Dans un premier temps, Rhaenyra est coincée entre la tristesse et la colère avant d'accepter cette condition qui va radicalement changer sa psyché. Ce genre de passage n'est d'ailleurs pas décrit dans le livre, mais ça fait partie des ajouts qui donnent au contraire du piquant à cette série, selon moi. Elle profite donc de son deuil, de sa colère et de l'absence d'Aegon pour tenter l'inespéré à Port-Réal, et ce, aux côtés de Daemon, afin de s'asseoir sur le trône de fer. Et c'est ainsi qu'aurait dû se terminer la saison 2, mais ce n'est pas le cas. Ils ont choisi de déplacer tout ça pour la saison 3. Et la question que je me pose est, si la saison 2 s'était terminée sur ça, est-ce qu'ils auraient pu faire venir autant de monde pour la saison 3? La majorité du public aurait très bien pu se satisfaire de cette fin pour la saison 2. Donc je sais pas ce que vous en pensez. C'est un truc qui revient souvent dans la Danse des Dragons, on a tout le temps l'impression que l'histoire est finie, mais non, ça continue. Sa présence sur le trône va au contraire soulever des problématiques qu'elle n'avait pas du tout préparées. Et ça nous emmène à un épisode 3 entièrement centré sur elle. Voir Rhaenyra s'en prendre un enfant et la laisser dicter sa conduite par Daemon montre qu'elle est en train de perdre la raison. La musique de Ramin Djawadi le démontre très bien, par ses petites notes de folie. Elle va même paniquer durant tout l'épisode pour la simple idée d'être à son tour l'usurpatrice, étant donné que la foi ne veut pas lui accorder un nouveau couronnement. Entre ça et l'absence totale d'argent, elle ne fait que se remettre en question du début à la fin. Qu'est-ce qui fait d'elle vraiment d'une reine? Et là, cette peur continuelle durant tout l'épisode de passer pour l'imposteur. Et c'est là que je me dis que Damon a quand même plutôt raison. Pourquoi se prendre la tête? Qu'est-ce qu'on s'en tape? Avec des dragons, les Targaryens sont comme des dieux. Et c'est d'ailleurs exactement comme ça que Aegon le Conquérant avait procédé. Durant tout l'épisode, on y voit une invasion de rats, les chasseurs de rats ayant été exécutés dans la saison 2, rappelez-vous, qui est sans rappeler bien sûr la folie montante de Viserys, qui ronge désormais Rhaenyra. Et d'ailleurs je me dis c'est marrant parce que cet épisode 3 c'est vraiment l'antithèse de la femme forte et indépendante. Cet épisode va au contraire nous expliquer que c'est extrêmement difficile d'avoir autant de responsabilités. Alors, j'ai quand même une déception à noter, c'est le fait que Rhaenyra n'ait finalement pas vraiment de compte à rendre à Alicent après avoir tué son père, alors que tout nous laissait croire qu'elle allait se passer ça à la fin de l'épisode 3. Du côté de notre bon vieux Corlys Velaryon, il perd complètement la face dès le moment où il a compris que Rhaenyra n'allait pas donner le nom Velaryon à ses enfants bâtards. Et il faut le dire, la performance de Steve Toussaint est particulièrement réussie. Avec un cri qui fait fortement écho à une scène qui a causé la mort de son propre frère.
Lived and died a bastard. Bastards!
Mais ici, voir qu'il ne se passe rien après avoir traité les fils de Rhaenyra de bâtards, alors que ceux-ci avaient coûté la vie de son frère, montre que la reine n'a actuellement plus aucun contrôle sur la situation. Du côté de Rhaena, c'est ici qu'on arrive à l'effet papillon, le fameux, hein, qui provoque l'accumulation d'incohérences, ce qu'avait averti George R.R. Martin de livre. Et je parle bien du fait d'avoir fusionné le personnage d'Ortiz du livre avec Rhaena. Déjà, côté incohérence, ça m'a vraiment énervé de voir Rhaena ne pas porter ses couilles face à Lady Jaehaerys Arryn, alors qu'elle a un fucking dragon juste derrière elle, hein, genre à quelques mètres. Mais d'où tu te fais écraser? Enfin, je trouve que ça aurait fait un développement personnel intéressant, une bonne évolution de personnage avec Rhaena, de l'avoir porté ses couilles face à Lady Jaehaerys Arryn. Et c'est là qu'on commence à voir les premières incohérences, enfin tout ce qui se passe avec cet arc n'a pas beaucoup de sens. Le fait que Rhaenyra fasse une fixette sur le fameux dragonnier qui aurait apparemment causé la mort de son fils, c'est pas normal de faire autant une fixette sur ça. Selon moi, il est mort pour les mêmes raisons que dans le livre, parce que c'est la guerre. Dans l'épisode 4, Rhaena est devenue pouilleuse pour se rapprocher davantage du personnage d'Ortis, et le showrunner explique avoir choisi de revendiquer un dragon par Rhaena, historiquement défini comme l'enfant de la famille qui n'en avait pas, afin apparemment d'offrir au spectateur une résolution narrative et personnelle et émotionnelle satisfaisante, fidèle à l'esprit complexe de Westeros. Bon, bref, c'est pourquoi le fait d'avoir un dragon était absolument important pour faire évoluer un personnage targaryen qui à la base n'en avait pas. La vraie raison, selon moi, c'était surtout pour réduire la quantité de personnages à l'écran, et ça se comprend tout à fait. Et comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente, profiter du métissage physique de Rhaena dans cette série pour faire ce mélange bizarre. Et c'est là qu'on commence à voir les premières limites de l'inclusivité des Velaryons dans cette série, parce que je le rappelle, dans le livre, les Velaryons ne sont absolument pas décrits comme noirs. C'est un ajout de la série pour renforcer l'inclusivité, et même si j'ai salué le fait d'avoir tenté de justifier ça dans le lore, en plus de nous aider à ne pas confondre les Velaryons et les Targaryens, on découvre ici les premières limites dans l'univers de cette fameuse inclusivité, parce que le personnage d'Ortis dans le livre est justement connu, particulière, principalement, pour sa peau brune, qui l'a détaché complètement des autres personnages. Donc ça veut dire qu'on a cancel un personnage qui était vraiment noir dans le livre pour mettre plus de noir dans la série. Enfin, c'est très étrange quand même. Bref, je change complètement de sujet, on en vient maintenant à Ulf et Hugh. Et quel plaisir de voir Ulf se chier dessus face à Damon. C'est une petite revanche personnelle par rapport à son comportement insupportable dans la saison précédente. Et paf, il se prend carrément une tarte dans la figure. Ulf va au fur et à mesure commencer à se calmé par simple mécanisme de la peur. Et ça fait un contraste parfait avec Hugh, qui lui à côté est un personnage très viril. D'ailleurs, j'aime beaucoup sa façon de choisir son nom, Marteau. Il le prononce de façon très noble, très droite. Le contraire total de Ulf le Blanc, qui choisit le blanc parce qu'il n'avait pas les droits d'auteur pour Targaryen. Du côté des Verts, j'ai un peu l'impression de vous faire la météo. Du côté des Verts, je trouve que ça n'a un peu aucun sens de voir Lord Jasper tenter de violer Alicent, alors que ça pourrait s'entendre à fond la caisse dans les couloirs. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe puisque nous avons le maître Orwyle qui intervient. Mais ça nous montre une scène de loyauté appréciable avec Orwyle justement. Le pauvre qui lui s'en prend plein la tronche depuis le début de cette saison, il ne sait pas trop dans quel camp se ranger. J'ai quand même un gros point fort à soulever, les échanges de dialogue entre Alicent et Rhaenyra dans la saison 2 que j'ai tant critiqué, prennent finalement tout leur sens dans cette saison 3. En effet, ça rend la prise d'assaut de Rhaenyra beaucoup plus crédible, étant donné qu'Alicent prend clairement parti de son ancien ami. Mais ça m'a envoyé à une autre déception. Le fait de voir que la mort d'Otto Hightower provoque aussi peu de conséquences dans cette relation m'a beaucoup déçu. Alors que la fin de l'épisode 3 nous laissait croire qu'il allait se passer quelque chose à nouveau entre Alicent et Rhaenyra. Après, nous verrons bien comment ça évolue dans la suite de la série. Lord Jasper se fait exécuter suite à son acte, et le fait d'apprendre plus tard qu'il avait des informations cruciales pour sortir Rhaenyra de sa galère montre que les personnages ne font plus que prendre des mauvaises décisions. Décisions qui ne feront que donner des avantages à Aegon. Et justement, quand on parle du loup, nous avons tout un arc consacré à Aegon et Larys qui tentent de fuir. Malheureusement, une fois encore, je trouve que ce récit enchaîne les absurdités qui m'ont sorti de la série à maintes reprises. Combien de fois Aegon aurait dû se faire tuer à cause de son mauvais comportement. Là, tu sens qu'il est vraiment fait en scénarium. En parallèle, Aemon parvient à s'emparer de la forteresse Arrenol à son tour, et c'est là qu'il croise la route de la sorcière Alice. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié que dans le livre, normalement, ils sont censés se croiser. Je pensais que cet arc avait été remplacé par Daemon dans la saison 2. Toujours chez les Verts, Daeron Targaryen, qu'on avait caché depuis le début, intervient, et je me suis rendu compte que je commence un petit peu à me perdre avec cette quantité d'enfants dont une poignée n'a pas pu être mise en scène dans la série. Nous y voyons Daemon demander de reprendre Daeron, vous suivez bien, hein, en guise de contrat de paix. Et c'est là Cormund, qui est un petit peu le gros nouveau personnage de cette saison, envoie un faux Targaryen, probablement avec des cheveux teints. Mais, et là je vais devoir encore parler d'un point qui m'a dérangé, le fait de voir le dragon derrière ne pas bouger, ne pas accompagner son propre maître Daeron, n'est tout simplement pas cohérent. Car ça aurait dû mettre immédiatement la puce à l'oreille de Daemon, du fait qu'il s'agissait d'un imposteur. Alors après, je vois des gens sur les réseaux sociaux, sur X, tenter de justifier cette incohérence par des explications un petit peu tarabiscotées, mais bon, il faut le dire, c'est pas cohérent. Ça fait partie pour moi des nombreux fails qui commencent à s'accumuler. Et pour se concentrer sur ce fameux Ormond Hightower, il est présenté comme l'antagoniste de cette saison. Au démarrage, j'ai eu diablement envie de me ranger de son côté, jusqu'à l'arrivée de la fin de l'épisode 4. Malheureusement, aussi charismatique soit-il, je trouve qu'il se transforme doucement en méchant de Disney. Exactement de la même façon que Cersei dans les dernières saisons de Game of Thrones. Cersei Lannister, qui était l'un des personnages féminins les plus charismatiques parmi les antagonistes, vers la fin, en plus de prendre des décisions complètement débiles qui allaient à contresens de ses décisions, avait vraiment un tempérament de méchant de Disney, avec son costume noir ultra cliché. Et bien, on retrouve un petit peu ce registre avec ce personnage d'Ormond Hightower, avec sa démonstration de méchant, où il force Daeron à tuer un innocent. Ça sert à rien, vraiment. À part renforcer l'aspect manichéen de ce personnage. Un personnage qui s'énerve de la même façon que Kylo Ren dans la post-série Star Wars, et ce n'est pas un compliment. D'autant plus que Kylo dans Star Wars a ses raisons de s'énerver ainsi, puisqu'il était censé incarner un gamin inexpérimenté, contrairement à Ormond qui, lui, est censé être un digacha de la guerre. Bref, quelques petites annexes avant de passer à l'épisode 5. Il est bon de rappeler le retour d'Otto Hightower, très expéditif. Un retour qui d'ailleurs, dans mes souvenirs, n'est pas dans le livre, je me trompe peut-être. Mais pour le coup, la série a eu la brillante idée de conclure son arc. Alors certes, c'est chiant parce que c'était un personnage plutôt bon, mais rappelons quand même que c'était lui qui était plus ou moins derrière la guerre de la danse des dragons. Autre sujet qui n'a rien à voir, Roderick Dustin est mis en avant au début de la série parmi les Stark, je crois, et je n'avais absolument pas reconnu l'acteur Tommy Flanagan à cause de ça. Vous savez, il porte une grosse barbe qui cache ses fameuses cicatrices. Donc je suis hyper content de le voir ici, j'espère qu'on le verra davantage dans la suite de la série. À présent, nous allons pouvoir spoiler l'épisode 5 de façon à compléter mon analyse de mi-saison. L'épisode 5 est malheureusement très décevant et je pense qu'on y reviendra gentiment en conclusion. Du côté des Verts, c'est Alice Rivers qui à son tour se transforme en sorcière de Disney et on la voit aider Aemon à se rétablir à Arrenal. Ce dernier a terriblement l'air d'avoir besoin d'une maman, chose qui, souvenez-vous, nous avons déjà senti dans la saison 2. Et plus tard dans l'épisode, le jeune homme la sauve de chasseur de primes qui était à ses trousses. Côté Aegon, celui-ci rejette la faute de ses propres échecs sur Aemond, ce qui pousse Larys à lui balancer en face ses quatre vérités, un petit délice. Au passage, Thailand les rejoint en repos les freux par la magie du hasard, et c'est ainsi qu'Aegon tue l'homme qu'il a humilié un épisode plus tôt, après que ce dernier ait découvert sa véritable identité. Pendant ce temps, Criston et Gawain emploient des tactiques de guérilla contre les troupes d'Oscar Tully. L'armée de Criston fait marche à pied pour empêcher les forces de Tully de marcher vers le sud, mais se rend compte qu'elle arrive trop tard en découvrant un pont incendié par les hommes du Conflant. À ce moment, Kristen confie à Gawain qu'il a l'intention de mourir au combat. Parce que le scénario a définitivement décidé de rendre ce personnage complètement débile, et Gawain, en revanche, a l'intelligence d'abandonner. Et je trouve ça vraiment comique de voir à quel point la série nous a fait perdre du temps avec cet arc. Enfin, tout ce qu'on a vu depuis le début, ça n'a servi à rien. Toujours chez les Verts, nous avons Ormond, quant à lui, qui veut vraiment se conduire comme un père auprès d'Aeron, et fait tout pour ne plus lui faire peur. C'est un personnage cruel avec ses proches, sauf avec lui et Daeron. Il veut vraiment lui montrer que Daeron a une place de privilégié, et c'est hyper intéressant. Maintenant, que se passe-t-il du côté des Noirs dans cet épisode 5? Nous avons Adam et Bayla qui arpentent le Conflant à la recherche d'Aemon et Vhagar. Et Alicent, pendant ce temps, alors oui, je me permets de ranger Alicent du côté des Noirs, vu qu'elle est quasiment hors-jeu à ce niveau de la série. Elle va passer l'épisode entier à chercher à fuir avec Elena. Et en toute franchise, j'ai trouvé ça un petit peu fatigant. En parallèle, on apprend qu'Elena est enceinte, probablement d'Aegon, et c'est un petit peu étrange de la mettre enceinte aussi tard dans la série. Et ça fait donc poser des questions sur l'origine du père. Alicent va donc tenter tout le long de convaincre Elena d'interrompre sa grossesse, mais celle-ci refuse. Et mesdames et messieurs, je discerne à Misaria la médaille du personnage le plus inutile de cette série. C'est juste un personnage fonction pour interagir avec les autres. Je vous rappelle que Misaria n'était pas censée être là dans la saison 2. Ce n'est qu'à partir du moment où Rhaenyra retrouve son trône qu'elle est censée sortir de l'ombre et travailler pour la reine. Mais étant donné que tout ce traitement a vaguement été amorcé dans la saison 2, on se retrouve avec ce personnage qui erre à droite à gauche dans les couloirs et qui taille le bout de gras avec des gens. Bref, Misaria va donc empêcher Elena et Alicent de s'enfuir et découvre la grossesse de la jeune femme. Puis, vers la fin, elles vont retenter de s'enfuir via un passage secret pour s'échapper, mais se retrouvent bloquées encore une fois. C'est très intéressant, dis donc. Pour finir, Daemon enquête sur le meurtre de plusieurs manteaux d'or. Après avoir torturé un espion, il apprend Cormon est derrière tout ça. Le Targaryen informe donc Rhaenyra, Cormon a proclamé Daeron roi et frappe de la monnaie à son effigie. Quel petit coquin! Plus tard, Daemon découvre Luthor et plusieurs manteaux d'or dans une scène macabre, faisant référence à la scène Le Dernier Repas du Christ. Et j'avoue que j'ai trouvé cette référence un petit peu gratos, alors que ça se déroule dans un univers totalement différent d'une autre. Mais soit. Je comprends juste pas le rapport en fait. Pourquoi faire une référence christique à ce moment précis? Bref. C'était donc la mi-saison 3 de la série Game of Thrones House of the Dragon. Nous avons maintenant analysé l'épisode 5, qui était selon moi malheureusement très décevant. La trame narrative traîne beaucoup, beaucoup trop. Je m'attendais à beaucoup mieux pour une ouverture de la seconde moitié de la saison 3. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi cet épisode pour en parler en vidéo. Hélas, avec cette saison, c'était vraiment pile ou face. Et comme j'y attendais, le soufflet redescend très vite après les 3 premiers épisodes sur une très belle lancée. Effectivement, lors des 3 premiers épisodes, on ne pouvait pas dire qu'il ne se passe rien. L'univers entre le début et la fin d'un chapitre évoluait en permanence, mais à partir de l'épisode 4, c'est très différent. Car l'histoire avance toujours, il n'y a pas de problème, mais d'une façon terriblement lente et un petit peu soporifique, avec beaucoup d'éléments complètement inutiles, et ce en enchaînant les clichés de plus en plus visibles, exactement ce qu'avait fait la saison finale de Game of Thrones. Mais bien sûr, tout n'est pas perdu, nous allons voir comment la seconde moitié de la saison évolue, et je serai bien entendu là pour vous en parler à l'occasion du final. Bref, ça c'était que mon avis, bien sûr, n'hésitez pas à me faire part de vous dans les commentaires, comme à chaque fois, j'y prêterai attention. Et avant de quitter, n'oubliez pas le lien de mon petit Patreon si vous voulez écouter l'intégralité de mes contenus bonus, et ce pour un prix moins cher qu'une place de ciné, n'oubliez pas ça. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, likez, et je vous dis alors ciao, et à la prochaine.